l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Allez, en ce vendredi 7 août, quel plaisir de se retrouver pendant ce moment de vacances avec le soleil qui a fait sa réapparition. J'espère que les températures ne seront pas trop chaudes cet après-midi. C'est un plaisir de se retrouver entre 12h et 13h avec au sommaire aujourd'hui, dans quelques instants, la chronique verte de Benoît Guillard nous fera prendre la direction du cœur de Tarbes. C'est à la Maison Saint-Paul. Benoît nous fait franchir les portes de la Maison diocésaine Saint-Paul pour découvrir son jardin et son parc en compagnie de Chantal, qui fait vivre ce lieu de passion, de nature et de rencontre. Et puis le livre conseillé par Nicolas Dargegène cette semaine, eh bien, c'est un livre qu'il a écrit lui-même, il en est l'auteur, et il va nous parler de Lourdes, Le passage des saints, paru en 2021, un livre consacré à Lourdes, aux apparitions et surtout aux innombrables pèlerins et saints qui ont pris le chemin de Massabielle depuis 1858. La chronique solidaire avec notre ami Andéloi cette semaine dans Solidairement Votre, cap sur la solidarité internationale et le développement durable. Anne reçoit Joseph Ningizé, venu du Burundi, pour évoquer avec lui les enjeux et les actions de solidarité et de développement. Et on terminera par un auteur, il s'appelle tout simplement aujourd'hui Noni. Pierre Loti, qui sera donc l'auteur sélectionné dans la fin de cette chronique. On va y arriver, pardon. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actualité. Et pour cela, nous retrouvons Clémence Roux.
Les opposants à la 69 entre Toulouse et Castres annoncent un nouveau week-end de mobilisation les 3 et 4 octobre prochains, peu avant la mise en service annoncée de l'autoroute. En Occitanie, l'ambroisie continue de gagner du terrain. Cette plante invasive au pollen très allergisant fait l'objet d'une surveillance particulière. En Aveyron, le festival du Rouergue revient pour sa 69e édition avec des artistes venus du monde entier. Enfin, dans le Tarn, les habitants de Monestier se mobilisent pour conserver une imposante sculpture de licorne représentant une licorne de la ville. Voilà pour les titres de l'actualité régionale.
Voilà pour l'essentiel, effectivement. Merci à Clémence Roux, qui est étudiante donc à Toulouse et qui passe l'été à notre compagnie. On la retrouvera tout à l'heure à 12h30 pour le journal complet de la mi-journée. Pour l'instant, on va partir vers un joli jardin. Il se trouve pas très loin des studios présents. C'est à Tarbes et c'est dans le cœur, au cœur même de la Maison Saint-Paul, grâce à Benoît Guillard.
Présence dans la Haute-Ariège, 92.7.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. J'ai fait le choix cette semaine de venir au cœur de Tarbes, au pied de la Maison Saint-Paul, la maison diocésaine pour les auditeurs qui connaissent. Et si vous êtes curieux, si vous rentrez un jour dans la maison diocésaine, vous verrez... En face de vous, il y a une haie, et si vous franchissez la porte, il y a un jardin magnifique. Il y a un jardin qui est animé par Chantal, que je rejoins aujourd'hui, justement, au cœur de ce jardin. Bonjour Chantal.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Et voilà, je suis au cœur de ce jardin et au cœur du parc de la Maison Saint-Paul, Et c'est vrai que cet endroit est pour moi quelque chose d'important parce que c'est un lieu de passion. Et puis aussi parce que c'est un lieu de passage où justement j'ai le grand bonheur de rencontrer beaucoup de monde. Et donc on y fait aussi des ateliers avec des enfants de l'IME Joseph Forgues. Et parfois, ben, y a des jeunes qui passent et qui demandent à donner un petit coup de main. Et ça, c'est un grand bonheur.
Alors Chantal, vous voyez, c'est une passionnée. Donc elle est déjà à fond dans son truc. Et donc Chantal, peut-être elle va nous expliquer qu'est-ce qu'elle a fait avant d'arriver ici et pourquoi elle est ici aujourd'hui, par curiosité.
Alors, moi, j'étais enseignante, j'étais institutrice, et bien sûr, avec les enfants, on faisait déjà du potager. C'est mon grand-père qui m'a passé cette passion. Et voilà, lui, il était originaire de Touraine, et moi, j'ai plus vécu en Normandie. Et depuis que je suis toute petite, j'ai cette passion pour la nature. Quand j'étais enfant, on passait beaucoup de temps dans des tout petits villages où, en fait, l'essentiel des activités était d'aller voir les paysans et d'aller à la rencontre de la nature, ce que je ne regrette pas parce que ça me porte toujours.
Institutrice, la retraite arrive et, au miracle, un espace qui n'est pas du tout jardiné, qui est un espace brut, qui s'ouvre à vous. Comment ça s'est passé, cette histoire ?
Alors, en fait, j'avais eu des tas d'autres potagers suivant mes pérégrinations. Et il se trouve qu'à cette époque, ça fait un peu plus de 3 ans, j'en avais plus. Et je rêvais d'en retrouver un. Et à l'occasion d'un stage dans les salles de la Maison Saint-Paul, je venais faire un stage de Qigong. J'ai été appelée par cet endroit. J'ai bien reconnu qu'il y avait des traces d'un jardin. Et je me suis dit, mais oh là là, on peut faire quelque chose ici.
Voilà, et donc la passion de Chantal a fait qu'elle a frappé aux bonnes portes, finalement, pour obtenir l'autorisation de pouvoir mettre en place ce jardin. Et alors, cette mise en place, elle n'a pas été simple.
Oui, il a fallu l'autorisation, effectivement. Puis après, ben, on a fait un petit chantier participatif pour clôturer, ce qui m'a permis d'amener des amis à moi qui ont découvert le lieu. Et puis de lier aussi des connaissances avec Pierre Denis, avec des étudiants d'ici. Et voilà, et c'était parti. Après, ben, il y avait eu aussi des jeunes migrants qui étaient là, et de par une amie. Bon. Voilà, la mayonnaise commençait à prendre et puis on a continué et voilà, les plantes, elles ont mis un petit temps à s'installer parce que c'est un travail de patience et puis les jeunes viennent et ça continue d'être vivant.
Alors Chantal, voilà, ce jardin grandit, il est magnifique, hein, un mélange de couleurs, de fleurs, de légumes, de plantes aromatiques, des fraises. Incroyablement rouge. Vraiment, je vous invite à venir le voir. C'est quand même le jardin d'Éden à la porte de la Maison Saint-Paul et c'est pas banal. Donc, toute cette solidarité se met en place autour de ce projet, donc autour de Chantal, qui est un aimant en fait, hein, Chantal, hein, quand on la connaît. Et donc, finalement, naît ce jardin très vite. Et donc, naît cette association qui s'appelle Les Amis du Jardin.
Elle existait déjà. Oui. On est donc une association, on est entre 12 et 15 suivant les années. Et voilà, et on essaye toujours d'apprendre, puisqu'il y a toujours des choses à découvrir. On partage, on fait des projets. Donc on a fait sur 2 ans ce grand projet qui voulait intégrer des jeunes aussi. D'abord avec une fête ici à la Maison Saint-Paul l'an passé qui s'appelait la fête de la nature, avec toutes sortes d'associations qui ont participé parce qu'on a cette chance d'avoir des structures avec des gens à la fois passionnés et très compétents, comme le CPIE, la Maison du Parc, enfin bon, il y a quantité de structures qui sont venues ici, c'était ouvert au tout public, et cette année, donc, on va faire un forum ouvert qui se passera au lycée Adriana, puisqu'on a fait ce qui s'appelle des Cafés du Monde, avec des jeunes, pour les faire réfléchir et les faire échanger autour du sujet du réchauffement climatique et de la perte de biodiversité. Voilà, puisqu'il est important de prendre le temps d'en parler.
Oui, alors tout à fait. Je pense que ce qui est aussi remarquable dans les fruits que produit ce jardin, c'est aussi plein de réflexions autour de la problématique du réchauffement climatique et autour de qu'est-ce que moi je peux faire, et notamment au travers du jardin, qu'est-ce que je peux faire pour la planète, c'est ça?
Oui, essayer d'observer, de comprendre, puisque effectivement, les changements, ils sont notoires. Bon, là, on est dans une période où il a fait plutôt froid. On a eu la chance d'être dans une région où il n'y a pas eu trop d'inondations, ni trop de tempêtes, comme dans certains coins de France. Voilà, ni non plus les canicules de la partie des Pyrénées-Orientales. Mais bon, on sait qu'il faut adapter nos méthodes. Donc, on continue d'échanger là-dessus, de voir tout ce qui est faisable. Là, on a déjà bien commencé à mettre du BRR. Bref, et on essaye de respecter au mieux la terre et de mettre toutes les conditions en place pour que le sol soit vivant et que les plantes ne souffrent pas trop. L'an passé, j'ai perdu mes petits pois par sécheresse hivernale. Et j'ai eu deux fois des légumes cuits, les pommes de terre, certaines cuites dans la terre, des tomates cuites sur pied. Donc il y a réellement des conditions qui nous donnent à réfléchir.
Voilà, et justement c'est aussi un lieu d'apprentissage, un lieu d'expérience pour effectivement s'adapter, puisque c'est le maître mot. Aujourd'hui, la réalité c'est que le réchauffement climatique, on le vit tous les jours avec tout ce qui se passe depuis maintenant quelques années, et le jardinier doit s'adapter, et vous éveillez à vous adapter, et vous réfléchissez à plusieurs pour pouvoir trouver des réponses à ça, et en même temps vous enseignez, l'écologie, quoi.
Oui, tout ce qui va être permaculture, tout ce qui va permettre de laisser à la fois au sauvage aussi, qui a son importance, sa place. Et c'est vrai que cette expérience d'être allé surtout à Adriana, bon, on a fait un peu à l'Atrium aussi avec des migrants et avec un petit groupe de jeunes en service civique de Rivage. Et ce qui a été très plaisant, c'est de voir qu'ils étaient heureux d'avoir cet espace et ce temps de réflexion et d'échange sur ces sujets. Parce qu'ils n'ont pas toujours l'occasion de le faire. Et bien, on espère qu'ils vont pouvoir mettre en place des actions concrètes qui viennent d'eux. Et voilà, parce que il y a que en se mettant ensemble dans une démarche de responsabilité et de grande motivation, que les choses pourront changer. Je suis convaincue que c'est par effectivement une démarche sociale qu'on pourra prendre soin de l'homme et prendre soin de la nature.
Alors Chantal, on arrive à la fin de cette émission. Et donc j'avais envie de vous poser une question pour terminer, qui est de dire... Aujourd'hui, si vous voulez laisser un message par rapport à tout ce que vous voulez vivre et partager autour de ce jardin, une idée que vous voudriez partager avec nos auditeurs, ce serait laquelle?
Alors, ce que je souhaite, c'est que l'être humain arrive à remettre les vraies valeurs en place. Parce qu'on voit actuellement tellement de difficultés et de violences dans la société. Je pense qu'il y a des profonds problèmes, peut-être politiques. Ça, il y a un vrai souci au niveau de la politique, mais pas seulement. Au niveau de la société elle-même, je pense qu'effectivement, il y a des vraies valeurs qui sont les valeurs d'amour, des valeurs de partage et les valeurs de respect, que ça soit entre les générations, que ça soit le respect du vivant, le respect de l'autre et le respect de soi-même, ces valeurs de paix. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'urgent aussi urgent et aussi important que le problème climatique. Voilà.
Merci infiniment, Chantal. On ne peut qu'être réjouis de ce message de conclusion. Et puis, pour nos auditeurs, n'hésitez pas à venir voir ce magnifique jardin au pied de la maison diocésaine, à la maison Saint-Paul, 51 rue Trénès à Tarbes. Merci, Chantal, et à bientôt.
Merci, Benoît, et je vous attends.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Voilà, même l'été, Benoît Guillard est à notre compagnie, vous l'avez compris, c'est le meilleur de ce que nous a proposé Benoît Guillard pendant la saison qui s'est déroulée donc de septembre 2025 à juin 2026. Un autre qui viendra nous présenter un livre qu'on a l'habitude de voir, c'est Nicolas Dargegène qui nous présentera son livre sur les foules qui sont venues à Lourdes. C'est à suivre juste après avoir écouté Kenji Chirac.
Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est le miel, c'est son sang qui coule dans mes veines. Et des souvenirs par centaines bercent mon cœur de mille étoiles. Elle est ma quête, elle est mon graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle.
Les yeux de la maman, à l'instant, c'était Kenji et Chirac sur Présence. On va partir dans les livres avec Nicolas Dargegène qui nous présente, qui nous avait surtout présenté pendant la période de la saison radiophonique de septembre 2027 à juin 2026. Un livre d'ailleurs dont il est tout simplement l'auteur.
Présence à Cahors, 92.5.
Bonjour à tous. En cette semaine qui se situe entre la fête de Notre-Dame de Lourdes et la Sainte Bernadette, j'avais envie de vous présenter un livre sur Lourdes. Et, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un livre dont je suis l'auteur, Lourdes, le passage des saints, paru chez Onto en 2021. La demande de la Vierge Marie à Bernadette est très précise. Allez dire au prêtre que l'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession. Et depuis 1858, ou plutôt depuis le mandement de Mgr Laurence de 1862 reconnaissant les apparitions de Lourdes, les pèlerins affluent à Lourdes. On ne peut même pas quantifier le nombre de personnes venues à Massabielle, tellement ils sont nombreux. Or, parmi tous ces pèlerins, certains ont été reconnus saints ou bienheureux par l'Église catholique. Bien entendu, la première sainte qui a marqué Lourdes, c'est Bernadette, canonisée en 1933. Mais depuis, de nombreux autres sont venus. On pense bien sûr à saint Jean-Paul II qui a marqué les esprits, mais ce livre justement nous permet d'en connaître plus, qui sont venus discrètement confier leur vie, leur famille, leur fondation, demander une guérison ou celle d'un proche. Par exemple, sainte Élisabeth de la Trinité, celle qui sera carmélite à Dijon, venait souvent dans la région pour des vacances en famille. Élisabeth écrit à une de ses amies pour lui raconter ce qu'elle vit à Lourdes. Nous avons été à Lourdes, ce coin du ciel où nous avons passé 3 jours délicieux, comme on ne peut en passer que là. J'ai bien pensé à vous au pied de la grotte. Aussi, vous saviez quel bon moment on y passe et comme on est ému. Il n'y avait pas de grand pèlerinage, nous avons pu communier à la grotte. J'aime Lourdes avec ce calme. Très douée pour la poésie, elle décrira quelques vers dans lesquels elle envie les carmélites de Lourdes. Avant-goût du séjour éternel, quelle est heureuse l'âme d'élite, la Vierge pure, la carmélite, qui de sa cellule peut prier devant le miraculeux rocher. Qui sait, Vierge bénie, ô Marie, si bientôt j'aurai le grand bonheur d'être enfin son humble et pauvre sœur et de m'unir à sa psalmodie. Saint Maximilien Kolb est venu également une journée à Lourdes. Il célèbre une messe à la crypte, il va prier à la grotte, comme tous les pèlerins, il embrasse le rocher. Comme il avait mal à un doigt, il le trempe dans l'eau de la source. Il repart ensuite en train vers Paris, et du train, comme tous les pèlerins d'aujourd'hui, il voit la grotte au moment de quitter Lourdes, lorsque le train longe la prairie. Il écrit, heureux de revoir la grotte une dernière fois. « Le train me ramène à la grotte, tout le long de la grotte et de la basilique, de l'autre côté du Gave. Je parle avec la petite mère. Je lui dis que je suis entièrement à elle, d'âme et de corps. Entre-temps, le Gave où s'écoulent les eaux de la source miraculeuse m'accompagne comme pour me dire adieu. Quelle gentille pensée de l'Immaculée. Si je n'avais pas pris le train de Bordeaux, je n'aurais pas eu ces consolations. » On peut également lire le témoignage des Espagnols qui sont obligés de fuir la persécution et donc de quitter une zone pour une autre au moment de la guerre d'Espagne. La carmélite espagnole Sainte Maravillas, qui vient à Lourdes avec ses sœurs de son Carmel. Elle reste une journée, entre en contact avec les carmélites de Lourdes. Elle rencontre Monseigneur Gerlier, évêque de Lourdes. Saint José Maria, escriba de Balaguer, vient également une journée à Lourdes, après avoir traversé les Pyrénées dans des conditions très dures, accompagné d'un groupe de jeunes hommes. D'ailleurs, en pleine montagne, il perd courage, se demande s'il doit continuer et demande un signe à la Sainte Vierge. « Si tu veux que je continue, montre-moi une fleur. » On est en plein hiver, il n'y a pas de fleur. Et il s'approche d'une église en ruine, et là, par terre, dans la neige, il découvre une fleur sculptée en bois. Voilà le signe de la Sainte Vierge. Il reprend courage et finit de traverser les Pyrénées. Il ne pouvait ensuite que s'arrêter à Lourdes pour remercier l'Immaculée Conception. Il y célèbre une messe dans la crypte, puis reprend la route vers la zone libre espagnole. D'ailleurs, Saint José Maria reviendra très souvent à Lourdes, souvent accompagné par le bienheureux Alvaro del Portillo. Il aimait venir saluer la Sainte Vierge à Lourdes, simplement pour lui dire qu'il l'aimait. Lourdes était pour lui un passage obligé entre l'Italie et l'Espagne, et comme il le disait, il est mal élevé de passer par là sans la saluer. Le bienheureux Mexicain Miguel Pro, lui aussi est venu une journée à Lourdes en juin 1926. Il y célèbre une messe dans la basilique et se rend à la grotte. Il écrira plus tard que c'était un des jours les plus heureux de sa vie. La grotte est pour lui un petit morceau du ciel où j'ai vu une Vierge qui a inondé mon âme d'un bonheur immense, d'une consolation intense, d'une joie divine. Tout cela se ressent vivement, il est vrai mais ne s'exprime pas. Le pauvre et malheureux Pro n'a rien vu, n'a rien entendu, ne s'est pas aperçu de ce que faisaient autour de lui les milliers de pèlerins. Pourtant si, une fois, en levant les yeux pour contempler ma bonne mère, j'ai vu au pied de la Vierge une malade couchée dans sa voiture. Elle récitait le chapelet les bras en croix. Ce spectacle m'acheva. Quelle foi et quelle confiance. Mon cœur devint tout embrasé et je me mis à parler intimement avec notre sainte mère, qui suscita dans mon âme des transports jusque-là inconnus de moi. Il se baigne ensuite aux piscines. J'ai vu des centaines de pauvres malades qui venaient chercher la santé. Un père capucin prêchait après chaque dizaine du rosaire. J'ai fait comme les autres. J'ai chanté, prié, baisé la terre. les bras en croix, j'invoquais la Sainte Vierge. Lourde pour lui, c'était rencontrer ma mère du ciel, c'était lui parler, la prier. Et je l'ai rencontrée, je lui ai parlé, je l'ai priée. Sainte Mariam Badawi vient aussi à Lourdes. Elle était carmélite à Pau et en août 1875, elle part avec 11 compagnes fonder le Carmel de Bethléem. Elle s'arrête en chemin à Lourdes. Elle a une certaine réputation de sainteté. Ses extases sont connues. Une dame s'approche d'elle et lui dit « Ma sœur, pouvez-vous m'indiquer où est la sainte ?» Sainte Mariam lui indique une autre sœur et la dame va se confier aux prières de cette autre sœur. Un autre Espagnol, Saint José Manianet y Vives, vient à Lourdes en 1887. Peu connu en France, il est celui qui a eu l'idée de construire une église dédiée à la Sainte Famille à Barcelone, la fameuse Sagrada Familia. Arrivé à Lourdes, il offre 2 chœurs en argent pour la basilique. Et puis, il va vers les incontournables marchands autour du sanctuaire. Et il y fait quelques courses, des médailles, des bouteilles pour les remplir d'eau et des statues de Notre-Dame de Lourdes. En revenant à Barcelone, il offrira une des statues à l'architecte Gaudi, qui la gardera sur sa table de travail dans son atelier de la Sagrada Familia. On découvre dans ce livre que certains sont venus servir les malades en tant qu'hospitaliers. Les bienheureux Luigi et Maria Beltram Quattrocci, qui viennent servir ensemble les malades en prenant un service aux piscines. Saint Joseph Moscati, qui vient servir les malades également. Il participe en tant que médecin à la procession du Saint-Sacrement. Il reste quelques jours, profitant même de la région, car il montera sur le pic du Gers. Il y a également la jeune pédiatre, Sainte Jeanne Beretta Mola, qui vient à Lourdes en juin 1954. Elle s'inscrit comme médecin au bureau médical et sert les malades à la grotte. Elle demande à Notre-Dame de lui faire rencontrer celui que le Seigneur lui a destiné, et le 8 décembre suivant, elle rencontrera Pietro, celui qu'elle épousera plus tard. On croise également les saints Louis et Zélie Martin venus séparément à Lourdes. Louis vient avec un pèlerinage d'hommes, il assiste à une scène incongrue. Une femme qui tapait sur le rocher pour tenter de ramener des bouts de la grotte. Par galanterie, saint Louis Martin s'approche et prend le marteau. Il arrive à casser quelques morceaux, il prendra 2 morceaux qu'il ramènera à sa femme. D'ailleurs, sa femme, sainte Zélie, vient quelques années plus tard avec ses 3 filles aînées afin de demander à être guérie de son cancer. Elle fait un marché avec la Sainte Vierge. « Si la Sainte Vierge ne me guérit pas, je la supplierai de guérir mon enfant, d'ouvrir son intelligence et d'en faire une sainte. » Et Zélie meurt, mais sa fille Léonie, qui était si difficile, trouvera sa voie quelques années plus tard. Et puis il y a des saints qui accompagnent des groupes ou qui viennent avec des groupes. Le bienheureux Alfredo Schulzer, le bienheureux Andrea Ferrari, le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, saint Léopold Mandic, saint Luigi Ganella, le bienheureux Colombin Marmion, saint Jean 23, saint Paul VI, la bienheureuse Raphaël Ibarra de Villalonga, sainte Paola Frassinetti, la bienheureuse Bruna Pellesi, le bienheureux Marie-Joseph Cassan, la bienheureuse Marie-Céline de la Présentation, le bienheureux Lolo Lozano Garrido, qui a d'ailleurs été choisi pour figurer sur la couverture du livre. Des saints qui nous paraissent proches de nous parce qu'ils vivent à Lourdes. L'achat des cierges, les billets de train achetés, les recherches d'hébergement. Comme le dit Mgr Brouvet dans la préface, c'est tout le peuple de Dieu que l'on rencontre là, en pèlerinage, appelé à la sainteté. Ils prient, participent à la messe, ou la célèbrent, récitent leur chapelet, touchent le rocher de Massabielle, vont aux piscines. Mais on les rencontre aussi dans Lourdes, qui cherchent un logement, s'inquiètent pour leur repas, ou montent à la gare pour trouver les horaires de train. Ce sont des pèlerins comme les autres, émerveillés par l'ambiance de foi et d'espérance qui règne au sanctuaire. Touchés aussi par l'abandon confiant des malades, par les foules en prière, par la lumière des cierges à la procession du soir. On peut y voir la marque d'une forme de sainteté inspirée de la simplicité de Bernadette. Une sainteté sans discours, sans prodige, sans apparence extérieure. Les saints sont des pèlerins en marche vers le Père des cieux. À travers les formes diverses de vie et des charges différentes, écrit le Concile Vatican II dans le chapitre consacré à l'appel universel à la sainteté, il n'y a qu'une seule sainteté cultivée par tous ceux que conduit l'Esprit de Dieu et qui, obéissant à la voix du Père et adorant Dieu le Père en esprit et en vérité, marche à la suite du Christ pauvre, humble et chargé de sa croix pour mériter de devenir participant de sa gloire. Chacun doit inlassablement avancer selon ses propres dons et fonctions, par la voie d'une foi vivante, génératrice d'espérance et ouvrière de charité. Tous les pèlerinages auxquels nous participons sur cette terre sont une image de notre marche quotidienne à la suite de Jésus. Et les saints canonisés, béatifiés, sont arrivés au terme de leur route, dans la maison du Père. Ce livre nous montre comment, passant à Lourdes, le cœur et l'espérance des saints battaient au rythme du Seigneur avec de petits gestes tout simples, en reprenant le refrain d'un ave, en mettant les bras en croix, en égrenant son chapelet. Il nous montre un chemin de sainteté accompli pas à pas, au milieu des autres, avec les malades, dans un climat ecclésial comme seul Lourdes peut nous en faire faire l'expérience. Avec ses gestes de foi mêlés aux conversations de tous les jours, avec sa piété à la fois ardente et joyeuse. En tout, 50 saints et bienheureux qui ont marché à Lourdes, et après qui nous pouvons marcher, car comme le dit le saint curé d'Ars, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Lourdes aura été et sera toujours un des lieux où les saints passent, et les saints de demain passent aujourd'hui, au milieu des multitudes de pèlerins, tous nous sommes appelés à former demain l'Église triomphante. Lourdes, le passage des saints, publié aux éditions Honto, est en vente à la librairie du Sanctuaire et dans toutes les librairies. À noter que cet ouvrage est sorti traduit et complété en italien chez le même éditeur en 2025.
Voilà Nicolas Dargegène qui nous propose pendant toute la saison radiophonique des conseils de lecture et donc aujourd'hui un livre dont il est l'auteur. Dans quelques instants, on va retrouver l'actualité de la mi-journée avec notre journaliste qui est étudiante à Toulouse, et qui s'appelle Clémence Roux. Et puis ensuite, on parlera de solidarité avec Anne Deloy. Et aujourd'hui, on ira très très loin puisqu'on ira du côté de l'Afrique avec son invité.
Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol de goélands, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père, parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve.
Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Sont les plus répandus. En tennis, Arthur Fils s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Montréal. Le Français a nettement dominé l'Argentin Mariano Navon en 2-7, 6-3, 6-2 en 1h19. Alors qu'il est plus solide que lors de son entrée en lice, le 24e mondial affrontera Cameron Norrie ou Alex de Minaur pour une place en quart de finale. Et puis direction le Mont Ventoux, aujourd'hui pour le Tour de France Femmes. La 7e étape relie la Voulte-sur-Rhône au sommet du Géant de Provence. 147 km avec une dernière ascension de 16 km à près de 9%. Au classement général, la Suissesse Marlène Reusser reste en tête avec 12 secondes d'avance sur Demi Vollering. C'est la fin de ce flash, excellente journée.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, le Toulousain Quentin Dumontier, porté disparu depuis près d'un mois à La Réunion, pourrait avoir été retrouvé. Le jeune homme de 28 ans n'avait plus donné de signe de vie depuis plusieurs semaines. Des éléments découverts au cours des recherches laissent aujourd'hui penser qu'il pourrait s'agir de lui. Des analyses sont encore nécessaires pour confirmer formellement son identité. Autre dossier, l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Les opposants au projet annoncent un week-end de mobilisation entre le 4 et le 3 octobre prochain. Plusieurs rassemblements et actions sont prévus pendant ces deux journées. Une nouvelle mobilisation pour les opposants qui entendent poursuivre leur contestation jusqu'à l'ouverture de l'axe. Et sur les routes, un nouveau week-end de chassés-croisés s'annonce particulièrement chargé autour de Toulouse. D'importants ralentissements sont attendus avec les départs et les retours de vacances. La circulation devrait notamment être difficile sur l'A61 en direction de la Méditerranée, mais aussi sur l'A62 vers Bordeaux et l'A64 en direction des Pyrénées. Dans le reste de l'actualité, l'ambroisie continue de se développer en Occitanie. Cette plante invasive est particulièrement surveillée à cette période de l'année. Son pollen très allergisant peut notamment provoquer des rhinites, des irritations des yeux ou encore des difficultés respiratoires chez les personnes sensibles. Un peu de culture maintenant en Aveyron, le festival du Rouergue revient sur sa 69e édition. Pendant plusieurs jours, des artistes venus de différents pays vont parcourir plusieurs communes du département. Danse traditionnelle, musique, spectacle et rencontres sont au programme. Enfin, dans le Tarn, à Monestier, une licorne fait beaucoup parler d'elle. Il s'agit d'une imposante sculpture réalisée par l'artiste Daniel Coulet et installée dans le village. L'œuvre a séduit de nombreux habitants qui souhaitent désormais la voir rester sur place. Une souscription a donc été lancée pour réunir les fonds nécessaires et permettre à la commune d'acquérir définitivement la sculpture. Voilà, fin de ce flash. Très belle journée sur Radio Présence.
Voilà Clémence Roux qui était avec nous avec un petit bout du flash d'information nationale avec il y a quelques instants. Donc désolé pour ce petit souci. Tout de suite, on va partir en Afrique grâce à l'invité d'Anne Deslois dans sa chronique solidaire. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, aujourd'hui, ce sont toutes des rediffs du meilleur de ce qu'on a pu enregistrer pendant cette saison radiophonique.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans notre émission Solidairement Vôtre, nous parlons de solidarité internationale et de développement durable. Avec un invité venu du Burundi, il s'agit de Joseph Nigeze. Bonjour Joseph.
Oui, bonjour Anne.
Merci Joseph d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur national d'INADES Formation. Alors, c'est une organisation qui est engagée dans le développement rural en Afrique. Bien sûr, vous allez avoir le temps de nous expliquer de quoi il s'agit. Vous êtes de passage en Occitanie, invité par le CCFD Terre Solidaire pour présenter les différentes actions de votre association, entre autres dans le cadre d'un programme qu'on appelle TAPSA. Alors là aussi, on réserve la surprise aux auditeurs de découvrir ce qu'est TAPSA. Au cours de notre émission, vous allez pouvoir nous expliquer ce que vous vivez, comment vous êtes engagé, dans le contexte, bien sûr, du Burundi. Alors, pour commencer, Joseph, pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
Oui, merci. Moi, je m'appelle Joseph Nigeze. Et je suis burundais et je suis le directeur national du bureau d'INADES Formation Burundi. INADES Formation Burundi est une association sans but lucratif de droit burundais et qui travaille au Burundi depuis 1975. Donc nous venons de célébrer 50 ans de jubilé et de 50 ans d'existence, et 50 ans de travail acharné et au service du bien commun au Burundi.
Et vous-même, Joseph, vous y travaillez depuis combien d'années?
Ah, je suis là depuis 2002, c'est-à-dire que j'ai déjà bientôt 25 ans au service du bien commun au niveau d'INADES Formation au Burundi.
Ça, c'est aussi un jubilé, 25 ans.
Oui, je vais vous inviter, je vais bientôt célébrer mon jubilé de 25 ans au niveau d'INADES.
Alors, l'INADES, on entend donc que c'est une organisation au service de différents bénéficiaires. Comment est-ce qu'on peut dire? Vous vous adressez auprès de qui ou directement à qui sur place au Burundi?
Oui, voilà. Permettez-moi d'abord de vous parler d'INADES dans l'ensemble. Et comme je le disais, INADES, en tant qu'association sans but lucratif et qui travaille pour la promotion de la solidarité entre les peuples, notamment au niveau du Burundi, c'est une organisation qui a travaillé depuis 1975 et qui a comme mission principale travailler pour la promotion socio-économique des populations défavorisées et pour leur permettre de participer et à la transformation de leur société. Ici, nous soulignons beaucoup la transformation de la société parce que la population doit vraiment prendre en main sa destinée, son développement. Et nous parlons surtout d'autopromotion.
Donc, vos actions, elles sont surtout envers des populations rurales. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation actuelle du Burundi dans les zones rurales où vous intervenez?
Oui, merci beaucoup. D'abord, je dois dire que le Burundi, c'est un pays qui est situé dans les Grands Lacs. Et pour ceux qui ne connaissent pas les Grands Lacs, nous avons le Burundi qui est entouré par au sud. Sud-est, c'est la Tanzanie. À l'ouest, c'est la RDC. Et au nord, c'est le Rwanda. Donc, ce sont les pays qui composent la région des Grands Lacs. Et quand on parle des Grands Lacs, c'est une région où on trouve beaucoup de lacs. Et déjà, au Burundi, nous avons beaucoup de lacs, dont le principal, c'est le lac Tanganyika. Et puis, nous avons alors d'autres lacs au nord du pays, et autour de ces lacs. Alors, INADES Formation Burundi, effectivement, travaille avec les populations rurales, parce que le Burundi, c'est un pays à majorité agricole, parce que le secteur agricole occupe déjà plus de 90% de la population. Et le secteur agricole apporte au pays plus de 50% du PIB. Vous comprenez bien que l'agriculture et l'élevage, c'est un secteur quand même important, moteur de développement au niveau du pays.
Alors concrètement, quelles sont les actions que vous mettez en place pour répondre aux enjeux du terrain?
Voilà. D'abord, notre approche pour vraiment toucher un grand public, parce que nous devons travailler sur la transformation de la société. Notre approche, c'est pour appuyer la transformation de la société, on doit essayer d'impliquer la population pour que la population soit responsable de ses destinées, de son développement. Et puis, nous avons alors le SADEV. Le SADEV, c'est notre approche stratégique, stimulation aux alternatives de développement au service du bien commun. C'est-à-dire que si la population doit s'engager à son développement, il faut créer des situations de stimulation pour qu'ils puissent identifier ces défis, mais aussi penser à la stratégie de résoudre ces défis pour essayer d'avancer en termes d'autopromotion.
Alors, vous êtes en France, Joseph, dans le cadre d'un programme qu'on appelle TAPSA, hein, Transition vers une agroécologie paysanne au service de la souveraineté alimentaire. Oh là là, c'est tous des mots qu'il faut presque expliquer. Mais alors, dites-nous, de quoi il s'agit de ce programme TAPSA dans le cadre de l'INADES Burundi?
Oui, merci. D'abord, INADES Formation Burundi travaille beaucoup sur la promotion de la souveraineté alimentaire. C'est ça notre devise. Parce qu'en fait, vous savez, la population a besoin d'être dépendante sur tous les aspects, notamment comme souvent on utilise les produits chimiques, alors que d'abord, ils ne sont pas accessibles à la population, alors ils sont aussi chers. Nous, nous encourageons la population à travers le projet TAPSA, Transition vers une agroécologie paysanne au service du bien commun. Nous aidons la population à trouver des alternatives. Et parce qu'en fait, au lieu d'utiliser les produits chimiques avec tous les effets sur la santé de l'homme et sur l'environnement, et nous mettons ensemble avec les populations rurales, nous définissons les actions dans le cadre du projet TAPSA et les stratégies, comment on va y arriver, parce que nous avons notre objectif, c'est de réduire sensiblement l'utilisation des produits chimiques en proposant des alternatives, notamment la production des biofertilisants, mais aussi la production des biopesticides.
Alors, si j'ai bien compris, le programme TAPSA, ça vise vraiment à renforcer le mouvement en faveur de l'agroécologie paysanne et solidaire, en fait, pour soutenir le développement des systèmes agricoles et alimentaires d'une façon saine, juste et aussi résiliente.
Oui, et je dois dire que le projet TAPSA, c'est un projet qui a toutes les dimensions. Dimension économique, dimension sociale, mais dimension aussi environnementale. Alors, c'est pourquoi, en fait, toutes les actions qu'on mène dans le cadre du projet, ce sont des actions qui visent le développement intégral. Ici, je souligne intégral parce que nous devons toucher tous les aspects de l'homme.
Et oui.
Oui. En fait, c'est pourquoi, en fait, parmi les grandes actions que nous développons, nous avons d'abord la gouvernance dans les ménages. Parce que nous savons que, au Burundi surtout, nous avons une inégalité de domination où l'homme veut dominer sa femme. Alors, à travers notre approche qu'on appelle conseil à l'exploitation familiale, nous faisons la formation en couple. C'est-à-dire que l'homme et la femme viennent ensemble à la formation pour qu'ils puissent suivre ensemble Et puis, quand ils vont arriver chez eux, dans le ménage, ils vont mettre en exécution tout ce qu'ils ont acquis pendant la formation. Ça facilite en fait la gouvernance dans le ménage parce que, vous savez, la gouvernance, ça demande vraiment des tacts pour ne pas déraper dans le ménage. Alors, nous avons aussi d'autres activités sur la macropropagation du bananier. Et parce que, vous savez, le bananier, c'est une culture principale au niveau du pays. Et parce qu'il apporte non seulement des revenus, mais aussi il contribue beaucoup dans l'alimentation de la population. Et nous avons aussi des activités sur la chaîne de solidarité à travers la distribution des chèvres et des porcs. Et parce que au Burundi, je dois dire que la population est très très nombreuse. Déjà au niveau du pays, nous avons une densité énorme, une densité de plus de 400 personnes par kilomètre carré.
Oui, c'est un petit pays, mais avec une forte, une dense population.
Oui. Alors, avec cette densité, il y a quand même une pression sur la terre. Mm. Alors, avec cette pression, il faut alors chercher des stratégies et des alternatives pour réduire la pression de la population sur la terre. C'est ainsi que, avec la chaîne de solidarité en distribuant les animaux à travers le projet TAPSA, la population a accès facilement à la fumée organique pour rentabiliser la terre.
Merci Joseph de tout ce que vous nous dites là. Peut-être avant de conclure, un petit message pour nos auditeurs.
Oui, merci. Un message que je pourrais lancer aux auditeurs, c'est que nous sommes contents de la collaboration avec CCFDT Solidaire et parce que c'est une organisation qui nous aide à être près de la population et la population qui est vraiment qui a un besoin, qui exprime beaucoup de besoins sur tous les aspects. Et c'est-à-dire que c'est un souci de satisfaction par rapport à la collaboration avec CCFDT Solidaire parce que il mobilise tous les moyens pour venir en aide à la population du Burundi.
Merci Joseph pour cet échange instructif. On vous souhaite un bon séjour dans la région, puis on va retenir que la solidarité internationale est vraiment essentielle pour construire un monde plus juste et durable. Merci Joseph.
C'est moi qui vous remercie.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Voilà, peut-être que vous avez entendu ou réentendu donc cette chronique proposée par Anne Deloye, solidairement vôtre. Dans quelques instants, c'est un bel auteur qui va être à l'honneur. Il s'appelle Pierre Louty et c'est la sélection que nous avons fait aujourd'hui. Mais pour l'heure, on retrouve Kenji Chirac et Vianney pour Le Feu.
La última vez, lo que ya, vamos.
J'ai pas les mots pour éponger ta peine. J'ai que mes mains pour te compter la mienne. J'ai travaillé sans compter mes semaines. J'ai pas volé la vie que je t'apporte. J'ai pas voulu qu'elle étouffe la nôtre. J'ai tout fait pour que le nous l'emporte.
Je te savais simple, mais je te voyais seul. T'étais tout éteinte, pourtant si jeune. Oh pourquoi? Dis-moi pourquoi. Alors j'ai dû ramer pour mieux te ramener. Au fond de mes yeux, j'ai allumé un feu. Oh pour toi, rien que pour toi.
Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne l'averse, je protège les braises.
Je te fais la promesse.
Siento, quiero que sepa mi deseo.
No puedo mover las nubes, pero ser tu pelaje cuando lo quieras pedirme.
Guerra solitaria, pensativa. Yo te pensé fuerte y no entendía. Oh, ¿por qué? du meilleur de moi-même. Et que vienne l'averse, je protège les braises.
Je t'ai fait la promesse d'une vie de lumière. Et que tombe la neige, je protège les braises. Le feu. De moi-même, et que vienne l'averse, je protège les braises. Je te fais la promesse d'une vie de lumière, et que tombe la neige, je protège les braises. Le
présence à Argelès-Gazost, 91-9.
L'Occitanie, un doux nom qui a inspiré nombre d'écrivains célèbres depuis des siècles. Séduit par ses paysages, son art de vivre, son histoire, ses habitants. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Pierre Loti. Pierre Loti, écrivain et officier de marine né à Rochefort dans les Charentes-Maritimes, a poursuivi toute sa vie une double carrière militaire et littéraire. Comme son frère adoré Gustave, médecin de marine disparu prématurément, il intégra l'école navale et entama un long parcours d'officier qui le conduisit pendant plus de 40 ans sur toutes les mers du globe. Ses escales dans des civilisations exotiques lui fournissent alors les thèmes de ses romans, souvent autobiographiques. Ici, il évoque sa première escale, bien loin de la mer. Alors jeune adolescent, il passa durant 4 étés ses vacances chez un oncle à Bretenoux dans le Lot, au pied de la forteresse médiévale de Castelnau. Castelnau, c'est un nom ancien qui évoque pour moi des images de soleil, de lumière pure sur des hauteurs, de calme mélancolique dans des ruines, de recueillement devant des splendeurs mortes ensevelies depuis des siècles. Sur une des montagnes boisées environnantes, ce vieux château de Castelnau était perché, découpant en l'air l'amas rougeâtre de ses terrasses, de ses remparts, de ses tours et de ses tourelles. Du jardin de mon oncle, on le voyait, passant sa tête lointaine au-dessus des murs d'enceinte. C'était du reste le point marquant dans tout le pays d'alentour, la chose qu'on regardait malgré soi de partout. Cette dentelure de pierre de couleur de sanguine émergeant d'un fouillis d'arbres. Cette ruine posée en couronne sur un piédestal garni d'une belle verdure de châtaigniers et de chênes. Or, c'était précisément une coutume d'été dans la famille de mon oncle de s'y rendre 2 ou 3 fois par mois pour dîner et passer la journée chez le propriétaire, un vieux prêtre qui habitait là-haut un pavillon confortable accroché au flanc des ruines. Il y avait fête et féerie pour moi ces jours-là. Toujours très longs, les dîners que donnait ce bon vieux prêtre. Souvent même, c'était des bombances méridionales auxquelles plusieurs des notables de la région étaient conviés. 10 ou 15 plats se succédaient, accompagnés des fruits les plus dorés, les plus beaux, et des vins les plus choisis parmi ceux que la contrée produisait si abondamment en ces temps-là. On restait à table plusieurs heures d'affilée par les chaudes après-midi d'août ou de septembre, et moi, seul enfant dans la compagnie, je ne tenais pas en place, troublée surtout par le voisinage écrasant de ce château. Dès le second service, je demandais la permission de m'en aller. Une vieille servante sortait alors avec moi et venait m'ouvrir la porte des murailles féodales de Castelnau. Puis elle me confiait les clés de ces immenses ruines et je m'y enfonçais seule, avec une délicieuse crainte par un chemin déjà familier, franchissant des portes à pont-levis, des remparts qui se superposaient. Oh, les moments de rêve que j'y ai passés. D'abord, je faisais le tour des terrasses, surplombant l'abîme des bois vu par en dessus. Des étendues infinies se déroulaient de tous côtés. Des rivières traçaient çà et là, sur les lointains, des lacets d'argent. Et à travers l'atmosphère limpide de l'été, mes yeux plongeaient jusque dans les provinces voisines. À travers le regard et les mots de Pierre Loti, inspirés par notre belle Occitanie, nous avons pu apprécier son talent et son émerveillement devant ce beau patrimoine. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles d'Occitanie » inspirant tous mes récits.
Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Guido del mare luccico, il tira forte il vento. Su una vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza, dopo che aveva pianto. Ma si schiarisce la voce e ricomincia un canto. Te voglio bene. Show you sing when it's the better side. Vide le luci in mezzo al mare, pensò all'inutile in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire d'una nuvola, gli sembra più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e non credette di affogare. Della lirica, dove ogni dramma ha un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare anche un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini, veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche lì non ti là in America. Ti volti e vedi la tua vita, la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene.
Présence à Lannemezan, 92.2.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Vêpres à Notre-Dame, veillée de prière au Stade de France, messe à Lourdes, le programme du voyage.